Pépite.
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 Le podcast du Master MTI.
Pépite.
Aujourd'hui, Pépite rencontre Charline. Charline est en fait élève au Master MTI. Elle est aussi pianiste et entrepreneuse. Avec elle, on a parlé musique, on a parlé bug et entrepreneuriat. Bonne écoute! Pépite. Charline, on est ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous. Peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Ok. Ravie, Marie. Donc, je m'appelle Charline. Je suis étudiante du Master MTI, donc promo 2022 du coup. Et je suis vraiment très contente de participer à ce podcast Pépite.
Tu me disais que ta formation musicale avait eu un vrai impact sur tes débuts professionnels. Est-ce que tu peux nous raconter un événement marquant de ça, peut-être le premier ?
Oui, alors du coup, moi je viens d'un parcours un peu spécifique. Donc j'ai grandi à Paris déjà, de parents d'origine chinoise. Et donc très tôt, j'ai commencé une école de musique. En fait, j'avais d'abord une prof particulière de violon quand j'étais toute petite, qui venait de Taïwan d'ailleurs, et c'était super les cours avec elle. Et donc très vite, on a décidé de prendre des cours au conservatoire. Donc j'ai intégré le conservatoire, mais plutôt en piano cette fois. Et donc c'était, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans peut-être. Et c'était génial, je suis restée jusqu'à mon bac, mes 17 ans du coup. Et ça m'a accompagnée donc jusqu'à la fin du lycée, quoi. Déjà, c'est vraiment super de pouvoir s'épanouir dans la musique parce que, tout simplement, au niveau des émotions, etc., c'est vraiment libérateur de pouvoir jouer. Ça m'a permis, quand j'avais 17 ans, pour la fin de mes études au conservatoire, justement, pour préparer mon CEM, j'ai pu monter tout un spectacle. Donc, on avait 30 minutes et c'était carte blanche sur scène. Donc c'était un événement qui m'avait vraiment marqué puisque c'était le premier vrai événement, on va dire, que j'avais organisé par moi-même. Et donc j'étais quand même assez jeune à l'époque c'était un événement hyper significatif parce que ça marquait la fin de mon parcours au conservatoire. Et après, en fait, j'ai fait ça assez jeune parce que j'allais intégrer la prépa. Donc c'était pas forcément évident de choisir entre la prépa et la musique, en fait. Enfin, choisir, il n'y avait pas un choix imposé, mais c'était compliqué de se dire que j'allais continuer à consacrer 5 heures par semaine à la musique, sachant que j'allais presque pas avoir le temps pour moi-même en prépa. J'ai laissé la musique de côté assez longtemps. Donc du moins jusqu'en école d'ingé où j'ai repris tout doucement. Et c'est vrai que ça, c'est à la fois comme le vélo dans le sens où tu le perds jamais, mais ça se perd quand même au niveau de la technique, ça se perd assez vite. Donc j'ai eu un peu de mal à reprendre quand même en école d'ingé. Donc j'ai joué un petit peu en deuxième année d'école. J'ai intégré l'orchestre symphonique de l'ESSEC qui s'appelle l'OZ. C'était très compliqué parce qu'à ce moment-là, pile poil, on a eu le Covid. Donc c'était forcément, c'était pas très marrant. On avait prévu de jouer une composition donc qui était du président de l'époque de l'Oz et on avait vraiment hâte. On avait fait une ou deux répétitions à l'ESSEC et à cause du Covid, on a dû tout basculer à distance. Donc c'était on avait fait quelques réunions sur Zoom, je crois, et au final chacun s'était enregistré. On avait fait un montage. Donc on était quand même super contents à la fin de produire quelque chose malgré le confinement. Et en fait, ça nous a quand même laissé sur notre faim. Et donc cette année, quand j'ai intégré Dauphine, j'avais absolument envie de à nouveau reprendre et beaucoup plus sérieusement la musique. Et il y avait une opportunité incroyable qui était celle de l'association du Dose Musical, qui est l'association de comédie musicale de Dauphine, parce que justement, ils cherchaient une pianiste. Donc j'ai passé les auditions pour ce spectacle-là. C'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée parce que, en fait, justement, c'était Maxime du master qui m'en a parlé. Il m'a dit, mon frère est au dos, si tu verras, c'est une asso super. Donc j'y suis allée et effectivement, c'était super. Monter une comédie musicale, ça n'a rien à voir avec faire de la musique classique. Déjà, le style de musique était totalement différent. On a monté la pièce Bullets Over Broadway. Et ensuite, c'était un travail, mais énorme, quoi. On avait, en tout cas pour le piano, j'avais plus d'une trentaine de morceaux à préparer. On a commencé au début de l'année, donc septembre, octobre, je sais plus trop, le temps de se mettre en place. Et le spectacle était fin avril. Donc le travail accompli était incroyable. Il y a la présidente de l'association, Marion Gamet, qui a fait les chorégraphies, qui avec son équipe a fait danser des personnes qui n'étaient pas forcément danseurs. Ils ont fait chanter des personnes qui n'étaient pas forcément chanteurs. Et nous, pareil, à l'orchestre, on avait une chef d'orchestre, Elisa Drey, qui était incroyable. Donc c'était vraiment une expérience super marquante. Donc on s'est produit pendant 3 dates au théâtre de l'Atelier. C'était vraiment incroyable de remonter sur scène, d'avoir un public après le Covid. Et je pense que c'est une expérience dont je me rappellerai toujours.
Thank you.
musique continue donc de te suivre aujourd'hui, pour le plaisir de nos oreilles. Comme d'ailleurs quelques-uns de nos camarades de classe qui sont aussi musiciens, qui nous ravissent à chaque fois. Merci. Donc là, c'était le prélude en mi mineur de Chopin. Magnifique. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de la start-up que tu as montée et qui s'appelle JukeFone, donc J-U-K-E et Phone, P-H-O-N-E, s'il te plaît.
Depuis toujours, je suis quand même assez dans l'univers de la musique et ça me touche quand même pas mal. Et en fait, je suis arrivée à un moment où j'arrivais plus trop à découvrir des nouvelles musiques et j'étais un peu bloquée, moi, personnellement, sur mon style. En tout cas, au niveau du piano, c'était la musique classique et j'avais envie de découvrir d'autres choses. C'était compliqué de savoir par où commencer. Et ensuite, dans la vie, en général, en école d'ingé, j'étais aussi assez bloquée dans le sens où on faisait pas mal de soirées et c'était pas souvent le genre de musique que j'avais envie d'écouter ou que j'aimais ou que je connaissais. Et donc, avec deux amis, donc Paul Brumer et Quentin Juarez, on a voulu, donc en deuxième année, créer notre projet entrepreneurial. On était accompagné par notre prof à l'époque, Christophe Barès, et on a développé en fait une application qui nous permettait de créer des playlists collaboratives. Donc l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait vraiment génial qu'on puisse aller à une soirée ou préparer une soirée et que chacun puisse proposer la musique qu'il a envie de proposer. Que ce soit pas une personne qui puisse proposer et aussi contrôler la musique dans une soirée, puisque c'est vraiment pas facile de trouver la personne qui met la musique, surtout si on a commencé à boire, c'est encore plus compliqué. Mais du coup, alors faut aller chercher la personne, faut lui dire de déverrouiller son téléphone, faut chercher la musique qu'on a envie d'écouter, et puis deux secondes après, il y a quelqu'un, enfin le mec a repassé la musique et il l'a sauté, ou il y a toujours des problèmes comme ça en tout cas qui sont quand même des freins.
Alors ça, je pense que oui, tout le monde l'a vécu. Choisir ta musique préférée. Te préparer à te déhancher dessus, et puis finalement, t'as ton petit camarade qui, sans nommer personne bien sûr, qui coupe le morceau.
Ouais, bah oui, c'est ça, c'est super frustrant. Imagine, je sais pas, t'as mis du Britney, t'as envie d'écouter ça, et quelqu'un te la passe, et là t'es dégoûté, quoi. Enfin, t'allais chanter dessus, t'allais danser dessus, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un frein et ça constitue une grande frustration. Et donc, on s'est dit, mais en fait, quoi de mieux que de laisser le choix à tout le monde d'aller proposer sa musique? Et après, on s'est confronté à un deuxième frein, c'était, bah, en fait, le truc, c'est que c'est hyper compliqué de proposer ta musique, enfin de choisir ta musique sur le téléphone de l'autre. Donc pourquoi est-ce qu'on le ferait pas chacun sur son téléphone, d'où la solution de l'application mobile qui serait en fait ouverte, on ouvrirait un salon à chaque membre qui serait présent dans la soirée. Et donc ce point d'accès, cet enjeu-là de l'accès à la musique, il est aussi dans le fait que tout le monde n'a pas Spotify Premium, tout le monde n'a pas YouTube Premium, et les pubs, c'est quand même super chiant. Et donc on s'est dit que voilà, ce qu'on allait faire, c'est ouvrir une session au nom de l'hôte de session, et en fait chacun se pluggerait par-dessus pour pouvoir accéder à la bibliothèque et choisir la musique. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, on sait exactement combien il y a de personnes qui écoutent quoi. Et ensuite, il y a aussi un dernier point qui est super intéressant, c'est qu'on se disait, mais ouais, là, c'est cool, tu peux proposer de la musique, mais à un moment, comment est-ce que tu fais pour maîtriser la musique que tu passes? Comment tu fais pour que ce soit pas les deux mêmes personnes qui mettent leur style et qu'on ait une bonne représentativité, qu'on ait vraiment une belle diversité dans tout ce qui est proposé et que ça corresponde au plus grand nombre? Et du coup, on a travaillé sur un algorithme qui nous permettait de voter, en fait, pour les musiques dans la playlist, pour voter up ou down pour une musique dans la playlist, pour dire, bah voilà, moi j'ai envie d'écouter celle-là tout de suite, ou alors on va chanter sur celle-là, je la mets d'abord, et puis, en fait, on peut aussi s'exprimer dessus et dire, bon, cette musique, je l'aime pas trop, j'ai pas trop envie de l'écouter maintenant, je vote down. Ou au contraire, super choix, et ou alors je connais pas et j'ai trop envie d'écouter, je vote up. Et donc en fait, c'est une manière de classer les musiques dans la playlist pour mieux correspondre, et même, admettons qu'on soit un anniversaire, on n'a pas envie de finir la playlist et de changer de téléphone ou je sais pas quoi pour mettre la chanson d'anniversaire. Enfin, c'est quand même une fonction qui est assez importante. Donc voilà ce qu'on a implémenté, et on a également, c'était un truc qu'on a trouvé assez marrant, on a implémenté la fonction like qui permet de modifier l'influence de quelqu'un. Et donc ça peut très bien aller vers du troll, hein, on peut très bien aimer des musiques horribles, mais on peut aussi, aimer les musiques ou le style de quelqu'un. Ce qui fait que ce qu'il propose, si ça correspond vachement au mood qu'il y a là dans la soirée, bah ça remontera plus haut dans la playlist. Cette personne-là, les musiques qu'elle proposera auront plus de poids.
Alors je sais que certains d'entre nous l'avaient testé pendant le voyage d'études de cette année dans le train, qu'on s'était bien marré, de pouvoir choisir les musiques comme ça sur le moment et de pouvoir voter tout ça. Est-ce que toi, t'as eu l'occasion de tester cette application en soirée? J'imagine que oui.
Ouais, donc on a déjà pu tester la solution en soirée en école d'ingé et également lors d'une démo avec nos profs et toute la classe, on l'a testé en direct avec une trentaine de personnes, et après c'était plutôt des petites soirées entre nous. Pas encore les grosses soirées étudiantes où il y a des centaines et des centaines de personnes. On aimerait bien, mais pour l'instant, c'est souvent des soirées où on est une vingtaine. Et le fonctionnement marche pas mal, il a pas mal plu. Après, c'est vrai qu'il y a... C'est assez difficile quand même de faire changer les habitudes des personnes. Donc il y a un gros sujet sur comment est-ce qu'on design l'appli pour essayer de... Enfin, pour en faire en sorte qu'elle soit super simple d'utilisation, quoi.
C'est vrai qu'il y a toujours ce sujet du changement d'habitude des utilisateurs qui est compliqué. Pourtant, là, la solution s'intègre quand même à des plateformes utilisées et existantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communication autour du projet? Comment ça se passe? Comment vous faites pour communiquer dessus?
Ouais, bah au niveau de la communication, c'est un gros sujet parce que bon, on est quand même depuis Paul est parti du projet, mais on est quand même deux ingénieurs, donc c'est pas évident de faire de la com. Au début, c'était vraiment le projet où on était tous les trois dessus, puis après Quentin et moi, et faire de la com, c'était difficile. On a monter un compte Instagram, un compte LinkedIn et Facebook, et on l'a animé pendant quelques mois, mais le truc c'est que c'est compliqué quand on développe et qu'on est sur le projet et qu'on a envie de livrer des nouvelles fonctionnalités. On passe énormément de temps dessus à développer, et c'est compliqué de trouver le temps à côté de continuer à faire de la com, ce qui fait qu'en fait on a des périodes où on communique beaucoup moins, mais parce qu'en fait on est en train de livrer, d'essayer d'avancer sur l'appli. Et donc c'est vrai que ça plaît pas forcément aux algorithmes.
Au niveau business plan, au niveau rentabilité peut-être, comment est-ce que vous avez géré la question? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et est-ce que finalement le fait d'être étudiant et d'entreprendre en tant qu'étudiant, c'est pas une bonne chose finalement?
C'est assez intéressant d'en parler parce que nous au début, cette solution-là, on voulait la vendre. Donc on a travaillé longtemps et en fait on s'est formé aussi puisque à l'époque j'étais pas encore dans la MTI mais effectivement on a pu faire des formations comme ça dans la MTI mais à l'époque j'étais encore en école d'ingé donc enfin, à l'époque c'était il y a 1 an 2 ans hein, donc mais je savais vraiment pas faire de business plan et j'avais du mal à chiffrer les coûts, à savoir à combien vendre ma solution, enfin, comment est-ce que je peux faire? Et ça me mettait une pression énorme, parce que j'avais l'impression de toujours devoir être rentable et de il fallait que ce soit l'idée à 1 million de dollars, quoi. Enfin, c'était presque une obsession et souvent on faisait des points de suivi réguliers et on nous demandait alors est-ce que tu as trouvé un business model qui te convenait? Est-ce que tu as réussi à vérifier? Enfin, à quelle année? Enfin, quelle année? Quand est-ce que tu seras rentable, machin? Et ça me mettait une pression monstre, quoi. Enfin, je me disais. Mais c'est horrible, là on gagne pas d'argent, on travaille à perte. Et en fait, c'est maintenant quand j'y pense, c'était presque ridicule cette pression-là qu'on avait, quoi. Parce que en fait, on était en train d'apprendre tellement de choses et c'était tellement riche. On rencontrait tellement de personnes. On a presque appris en fait à ce que c'était vraiment que de coder, de développer une application avec ce projet-là. Et comment est-ce que on a pu se rendre malade, quoi, à l'idée de devoir absolument faire du chiffre avec ce projet-là. Et en fait, ce déclic-là, je l'ai eu en arrivant à Dauphine, grâce à Cécile Bull, qui était donc qui est partie depuis, mais qui était à la tête de l'incubateur de Paris Dauphine, qu'on a intégré d'ailleurs. En fait, je venais pour lui poser la question, pour lui parler de mon projet, parce que je voulais intégrer l'incubateur et je voulais être accompagnée. Et je lui ai fait part du projet, où est-ce que ça en était, tous les détails, les business models, le business model envisagé, etc. Et elle m'a juste posé une question. Elle m'a dit, mais je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. C'était une question du type, est-ce que ce projet, tu l'aimes toujours aujourd'hui? Est-ce que ça te fait plaisir encore de travailler dessus? Et en fait, j'ai pas su répondre. J'ai bégayé pendant une dizaine de secondes. Enfin, à la fin, quand je suis sortie, j'en avais presque les larmes aux yeux. Enfin, c'est presque ridicule de se dire ça, mais je me disais, mais en fait, j'avais plus de plaisir à travailler sur le projet parce que j'étais obsédée par une seule chose et ça me stressait en fait de pas réussir à trouver le bon business model et de me demander comment vendre mon produit et ça me bloquait tellement. Et ça m'a fait tellement du bien qu'elle me pose cette question parce qu'en fait, ça nous a fait totalement switcher. Et avec Quentin, avec qui on travaille, on s'est dit, allez, c'est bon, on arrête de se mettre cette pression-là. On va ouvrir la plateforme, on va en faire une plateforme web. Elle sera accessible à tout le monde. Et puis, tant pis si on fait pas de chiffres, on va voir d'abord. On va expérimenter, on va tester. Et on va voir si on a envie de faire du chiffre, on a envie de la rendre payante plus tard, on verra. Mais en fait, le truc de se dire on verra et de pas se dire ok, dans 3 mois il faut absolument ça. Enfin, c'est bien de pouvoir mesurer son progrès, c'est bien d'avoir des objectifs réalistes, mesurables, etc. Mais c'est aussi bien de se dire ok, aujourd'hui, de quoi on a besoin? On a besoin d'avancer à notre rythme. Mentalement, on peut pas se permettre en fait de se mettre cette pression-là. Donc, on prend le temps, on y va, on voit comment ça marche. Et puis, si c'est une plateforme qui reste une plateforme ouverte, libre, gratuite, presque. Enfin, on avait presque envie de dire tant mieux. On va voir.
Super intéressant, merci Charline de nous partager ça et merci pour ton honnêteté. Il n'y a rien de ridicule selon moi à ces sentiments et à ces réactions. Donc justement, l'entrepreneuriat et le doute, selon toi, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est bénéfique peut-être?
Ah oui, clairement, j'ai souvent douté parce que j'avais souvent l'impression de ne pas avoir le bon background pour pouvoir entreprendre, en fait, parce que j'étais vraiment très technique, très ingé, et il y avait des choses auxquelles je comprenais rien, et je me disais, mais je vais jamais y arriver, et même au niveau technique, où j'ai quand même fait prépa, mon école d'ingé. Parfois, j'étais bloquée sur des problèmes informatiques et juste, j'y passais des heures et des heures. En fait, nos séances, à l'époque, quand on était accompagné par notre prof, au tout début du projet, c'était des séances de 4 heures. Il m'arrivait de faire les 4 heures et de rentrer chez moi et de travailler encore une heure ou deux heures sur le même bug que j'arrivais pas à fixer. Et à un moment, je me disais, mais c'est pas possible, quoi, je vais jamais y arriver, c'est super dur, je comprends rien. Et donc, on a beaucoup douté, on a douté aussi énormément sur qu'est-ce qu'on va faire du projet, est-ce qu'on a envie de continuer. Plusieurs fois, on voulait s'arrêter. D'ailleurs, Paul nous a quittés en cours de chemin, donc aussi, on s'est réinterrogé en fait sur qu'est-ce qu'on voulait faire de ce projet-là. Et ça, on le voit pas beaucoup parce que, en fait, dans toutes les histoires qu'on nous raconte autour de l'entrepreneuriat, on commence un peu plus à parler des histoires qui n'ont pas marché, mais c'est quand même surtout des success stories qu'on nous raconte. Et quand c'est pas des success stories, c'est des fail stories, mais de personnes qui après ont eu des success stories. Et donc, en fait, il y a cette presque. Je sais pas trop comment dire. Ouais, ce tabou qui commence à être levé, mais c'est cette pression-là d'impératif, en fait, d'absolument réussir, de faire du chiffre et d'être une licorne. Et en fait, à un moment, c'est impossible de pas douter, en fait, quand autour de nous, on a l'impression que les gens ont pas de mal et que tout va super bien et qu'ils ont tous leur plan d'action à 6 mois en tête et ils savent exactement à quel moment faire quoi. Je veux dire, les jalons, on les a fixés nous-mêmes. Enfin.
Et si tu devais refaire, est-ce que tu referais autrement? Est-ce que tu as des conseils pour faire face à ce doute en équipe, par exemple?
Ouais, totalement. Du coup, quand on doute, c'est vraiment difficile d'avancer parce que il y a un moment où on sature. On est H24 sur le projet et en plus on n'est pas sûr et c'est super dur mentalement. Du coup, franchement, la première chose à faire, c'est d'en parler. Quand on voit qu'il y a une personne qui en peut plus ou qui est moins investie. Et c'est quelque chose aussi que j'ai regretté de pas avoir fait plus avec mon équipe à l'époque. C'est juste se poser la question, est-ce que ça va? Est-ce que t'as encore envie? Et si oui ou sinon, pourquoi? De quelle manière est-ce que t'en as envie? Est-ce que, à quelle fréquence tu veux travailler sur le projet? Combien de temps? Quel investissement? Et vraiment se mettre des limites et les limites qui conviennent à chacun. Donc c'est hyper important d'avoir cette discussion-là entre membres de l'équipe. Hyper important aussi de pouvoir tous dire quoi. De dire bah voilà le projet là j'en peux plus, je veux plus en faire, ou alors le projet ce truc technique c'est impossible, c'est beaucoup trop dur. Il faut qu'on switch de techno.
Très bien, donc être à l'écoute de l'autre, mais aussi de soi, savoir poser des limites, si je comprends bien, pour garder l'énergie disponible pour continuer le projet. Donc très intéressant, merci. Et il y a une chose dont j'aimerais parler, qui me semble primordiale, même dans la vie en général, c'est la célébration des joies, ou des réussites, petites et grandes. Collective ou individuelle. Est-ce que tu peux nous toucher deux mots là-dessus, s'il te plaît?
Ouais, c'est vrai que ça, on l'a pas beaucoup fait. Bon, déjà, d'une part, parce que il n'y avait pas beaucoup de célébrations. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de victoires au tout début, en tout cas de victoires comme les autres l'entendent. Du genre levée de fonds, etc. Ça vient quand même beaucoup plus tard dans la temporalité d'un projet. Nous, on célébrait quand même vachement les victoires techniques, quoi. Quand on arrivait à fixer un bug sur lequel on avait passé des dizaines et des dizaines d'heures, on était trop contents. Et c'est vrai que ça, ça a aidé énormément parce que c'était un petit truc, mais on se disait, ah mais c'est incroyable, on a réussi à faire en sorte que ce bouton, il fasse ça. Et c'était, enfin, on se rend pas compte, mais quand on fait, on design la plateforme, on la programme, on développe tout et on essaye de maîtriser tout. Et quand c'est super difficile, quoi, d'avoir la maîtrise de ces algorithmes. Et quand on arrivait à afficher le player, on était trop contents. Quand on arrivait à faire monter une musique devant l'autre, mais c'était la joie absolue. Et ça, c'est des moments incroyables qui restent vraiment gravés super fort dans nos mémoires, parce que c'est vraiment des accomplissements qui font que ça nous donne envie de continuer.
Encore du Chopin, valse en la mineur. Merci beaucoup Charline pour ces notes qui nous ravissent. Encore, justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être entre cette expérience entrepreneuriale Dukephone et ta formation musicale?
Ouais, totalement. Enfin, mon parcours en tant que musicienne, ça m'a vachement aidée. D'une part, je trouve à comprendre quand même un petit peu les problématiques et les besoins que les utilisateurs avaient sur notre produit. Pourquoi est-ce que ça leur servait et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire en sorte de plus partager en musique et tous ces points-là déjà. Donc ça fait quand même un point super important et ensuite ça m'a vachement apporté parce que depuis que en tant que musicienne, depuis que t'es petite, en fait, tu t'apprends à être super patient sur un projet ou un morceau de musique, en fait, et c'est toujours du long terme. Sur une année au conservatoire, je préparais peut-être tous les 3 mois, 4 mois, et à la fin, tous les 6 mois, même pour mon dernier projet, toute l'année, seulement quelques morceaux. Donc on passe parfois 4 mois sur 2 morceaux et encore c'est des morceaux faciles quoi mais il faut de la rigueur, il faut de la précision et surtout il faut pas lâcher quoi. Parce que parfois y a un truc super simple, c'est tu déchiffres le morceau, t'as des accords, tu joues qu'une seule note, t'es pas précis, c'est pas grave hein, t'as la mélodie en général, tu l'as. Mais en fait, justement, au conservatoire, on t'apprend à aller au fond des choses et à être super précis et à jouer exactement le morceau comme il faut et comme tu le sens, en fait, avec précision. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit vachement dans les projets. Parce que tu vas au fond des choses, t'es beaucoup plus minutieux, tu prêtes beaucoup plus attention aux détails et surtout tu lâches pas quoi. C'est pas grave de passer autant de temps sur quelque chose si à la fin ça te permet en fait d'avoir ton premier prototype où bah t'as la mélodie mais t'as pas toutes les notes, c'est pas grave. Ton deuxième prototype, enfin ta deuxième version, ta V2 où au final tu commences à avoir le rythme, c'est pas totalement ça, mais ça commence à être au tempo, tu commences à avoir des petites nuances qui se dessinent, ouais. Et puis tu lâches pas, tu continues, même s'il faut encore plein de mois, et bah tu vas encore plus loin, tu t'apportes des modifications, tu travailles le style, tu travailles l'expérience utilisateur, comme dans un morceau où tu travailles beaucoup, tu vas travailler les phrasés, les nuances, où est-ce que tu piques, où est-ce que tu lis, enfin, c'est tous ces détails-là qui font qu'à la fin, ton projet, il est réellement abouti. Donc typiquement, ouais, on peut faire énormément de passerelles entre la façon dont on travaille, dont on écoute la musique et la façon dont on peut travailler un projet.
C'est vrai qu'il y a ce truc très particulier dans des formations comme celle du conservatoire. Ou parfois d'ailleurs, je pense le ressenti, surtout quand t'es jeune, enfin quand t'es petit, le ressenti de la musique passe après la technique. Et parfois c'est problématique pour certains musiciens. Je te remercie beaucoup pour tes réponses en tout cas. Pépite. Alors dis-moi, Charline, pépite, pour toi ça signifie quoi?
Une pépite pour moi, c'est peut-être synonyme de quelque chose d'authentique et d'unique. Donc forcément, si j'avais une image en tête, je vois tout de suite la pépite d'or. Mais c'est vrai que cette obsession-là, faut que j'arrête. Mais pépite, enfin vraiment, c'est quelque chose qui est brillant, authentique, et il n'y a qu'une seule pépite qui ressemble à cette pépite-là.
Évidemment, je te pose la question, est-ce que tu as des musiques qui t'inspirent en ce moment et que tu voudrais partager avec nous?
En ce moment, ah oui, alors en ce moment je fais un truc assez spécial. J'écoute des reprises sur YouTube de différentes musiques avec un instrument traditionnel chinois qui s'appelle le erhu. Donc ça s'écrit Erhu. Et donc c'est un instrument à cordes qui est absolument magnifique. Donc j'avais écouté une reprise de Princesse Mononoke, enfin la chanson The Legend of Ashitaka au erhu. Et c'était incroyable. Et donc du coup je suis totalement obsédée. Enfin c'est ma c'est un passage, mais ça va me passer. Mais je regarde plein de vidéos là-dessus. Voilà.
Merci Charline pour toutes tes réponses, pour le partage de ton expérience. On espère que Jukefun sera la prochaine pépite de l'incubateur de Dauphine. Et on se revoit très vite pour que tu nous tiennes au courant de l'avancée de ce projet-là. Je suis Marie Boubila, élève de la promotion 2022 du Master 2 de Management de la Technologie et de l'Innovation à l'Université Paris-Dauphine et aux Mines ParisTech, MTI pour les intimes. C'est Jérôme Anton qui a monté les différents épisodes du podcast. Il a aussi composé le jingle de Pépite avec Maxence Duhamel Carpentier. On les remercie beaucoup pour ça.